Fabienne Saintet, je me rapproche du 18h là.
Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau.
C'est beau, hein, 18h16 secondes, c'est rien, voilà. Quoi.
C'est encore vous demain ou pas?
Je vais essayer de passer à 3 ou 4.
Oh là là, ouais. Trop fort.
Allez. Salut Fabienne Saintet.
Allez, salut, je vous embrasse. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention au départ et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir par ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 25 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence par un groupe sous pression.
Le groupe Orpea, leader mondial des EHPAD, désormais dans le viseur du gouvernement qui n'exclut pas d'ouvrir une enquête sur sa gestion des personnes âgées, dénoncée dans un livre à paraître demain. Dans ce journal, le témoignage de la fille de la romancière et actrice Françoise Dorin, morte dans l'un des EHPAD d'Orpea en 2018. Et en face, la défense du groupe, le directeur général, reconnaît ce soir certains dysfonctionnements. Une nouvelle mesure du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Le barème kilométrique sera rehaussé de 10% afin d'atténuer la hausse des prix du carburant. On entendra le Premier ministre. À suivre aussi un policier guadeloupéen soupçonné d'être derrière les violences des derniers mois. Information France Inter. Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane pour mettre en garde contre l'extrême droite. Et la défaite avec les honneurs de Gaël Monfils à l'Open d'Australie.
À 18h15, un jour dans le monde en Ukraine, forcément ce soir. On va essayer de savoir s'il reste une marge de négociation avant et avant quoi d'ailleurs, jusqu'où ce jeu dangereux entre la Russie et les États-Unis. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne ce soir avec cette question Covid. Et si on était sur le point d'entrer en phase 2, c'est-à-dire un virus encore là, mais qui nous permet de changer notre logiciel de gestion de l'épidémie. Comptez sur les traitements, comptez sur les vaccins à refaire, mais pour certains seulement au fil des années. Bref, est-ce que nous sommes aussi en train de changer de vocabulaire de pandémie à endémie? La discussion ce soir se passe au 01 45 24 7000. France Inter. Les maisons de retraite privées sont donc dans la tourmente.
Nous vous en parlons depuis hier sur France Inter avec ce livre choc à paraître demain sur les pratiques inquiétantes du leader mondial du secteur, le groupe Orpea, des personnes âgées maltraitées, notamment dans des résidences de luxe qui économisent sur tout. Le sujet s'est invité aujourd'hui à l'Assemblée nationale au point que le ministre de la Santé a demandé à saisir le groupe en question. Une enquête de l'inspection générale des services pourrait être diligentée. Parmi les révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs, il y a ces informations sur la mort de l'écrivaine et comédienne Françoise Dorin, décédée il y a 4 ans dans un des EHPAD du groupe Orpea. Sa fille Sylvie Mitsakides raconte le calvaire de ces derniers mois dans l'un des établissements les plus chers à Neuilly-sur-Seine.
Fin décembre, on m'appelle un peu en urgence. Je découvre au niveau du sacrum de ma maman un trou béant. Un trou de la taille de mon poing. C'était déjà trop tard. Et puis, une semaine après, elle a eu le choc septique qui venait directement, évidemment, de cet escarre pas soigné. Il y a eu une grande négligence et j'ai eu l'impression qu'on avait trahi la confiance que j'avais mise dans cet établissement. Voilà, j'avais trop de peine. De toute façon, ça n'aurait pas ramené maman. Je pense que c'est plus utile que je me manifeste maintenant que toute seule à l'époque. Là... Je sais malheureusement qu'il y a plein de témoignages. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'argent que donnent les résidents serait mieux placé dans plus de soins, plus de personnel que dans le décor.
Voilà, Sylvie Mitsakides avec Cécilia Arbona. Depuis ces révélations hier, l'action du groupe Orpea coté en bourse ne cesse de chuter, moins 30%. La direction, qui n'a jamais accepté de répondre aux journalistes à l'origine de cette enquête, a finalement décidé de réagir. Écoutez, Jean-Christophe Romercy, les directeurs général Orpea France.
Je voudrais vous dire que nous sommes choqués. Nous ne connaissons pas la totalité du livre. Nous connaissons uniquement ses premières allégations. Ce qui est démontré de l'entreprise comme un système est absolument faux. Bien sûr, nous ne sommes pas infaillibles. Bien sûr, il peut y avoir des dysfonctionnements. Nous allons faire ce que nous faisons toujours, comprendre, interroger, relever les différents éléments qui nous permettent de comprendre la situation. Et comme nous l'avons toujours fait, nous sommes ouverts à la discussion, à l'échange et à l'explication. Nous n'avons rien à cacher.
Donc il n'y aura pas d'enquête interne chez vous?
Si vous voulez utiliser le terme « enquête interne », c'est une façon de le mentionner, mais c'est ce que nous faisons depuis toujours. Nous ne resterons pas sans voix, nous allons prendre connaissance des éléments de l'ouvrage et nous nous réserverons toutes les suites que nous jugerons nécessaires.
Jean-Christophe Romercy, directeur général Orpea France. Il était au micro de William Delesseux de France Bleu Paris. Dernière information sur ce dossier. Les députés socialistes ont demandé aujourd'hui que les parlementaires puissent disposer d'un droit de visite dans les EHPAD sur le modèle de ce qui se pratique pour les lieux de privation de liberté.
Le gouvernement joue l'apaisement sur le prix du carburant.
Pas question de prendre le risque d'un retour des gilets jaunes à 3 mois de la présidentielle. Alors pour éviter toute flambée, Jean Castex a annoncé cet après-midi une mesure pour amortir la hausse des prix de l'essence qui atteignent des records, 1,65€ le litre de gasoil la semaine dernière. Pas question de toucher à la fiscalité. En revanche, le barème kilométrique qui permet aux gros rouleurs de déduire de leurs impôts leurs frais de déplacement, ce barème va être rehaussé. Écoutez le Premier ministre devant l'Assemblée nationale.
Le niveau des prix observé depuis quelques jours est tel que nous devons apporter une réponse à ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup, c'est-à-dire pour qui le véhicule est finalement un moyen de travail ou de recherche d'emploi. Je pense en particulier aux infirmières, aux aides à domicile. J'ai donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances de modifier dès cette semaine l'arrêté définissant le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10% afin de mieux tenir compte de la hausse réelle des prix supportés par ces ménages. L'effet sera rapide et direct dès leur déclaration d'impôt sur les revenus 2021 ou les bénéfices de l'année dernière.
Jean Castex au Palais Bourbon cet après-midi. Sur le front sanitaire, le gouvernement cherche à booster la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Seuls 200 000 ont reçu une première dose sur 5 millions, à peine 4%. Plusieurs règles vont donc être simplifiées, en particulier celle de l'autorisation parentale. L'accord d'un seul parent redevient suffisant. Pfizer et BioNTech annoncent le début de leurs essais cliniques sur un vaccin visant spécifiquement le variant Omicron, avec une cohorte de 1400 personnes de 18 à 55 ans. On en vient maintenant à ces informations. France Inter sur les violences qui secouent la Guadeloupe depuis 3 mois. Violences sur fond d'obligations vaccinales avec des soignants, des forces de l'ordre pris pour cible. Des violences qui, selon la justice, étaient pour une partie d'entre elles parfaitement planifiées et organisées, avec notamment l'implication active d'un fonctionnaire de police, désormais mis en examen. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
On en sait plus ce soir sur le profil de ce policier guadeloupéen soupçonné d'être devenu ces dernières années un véritable chef de gang aux arrière-pensées très politiques.
Et il s'agit d'un brigadier-chef du commissariat de Pointe-à-Pitre, âgé d'une quarantaine d'années, agent expérimenté, donc, qui avait la particularité d'appartenir à un service qui allait chercher des délinquants pour l'exécution de leur peine. Un policier qui connaissait donc beaucoup de monde, et c'est justement ce carnet d'adresses exceptionnel que les magistrats instructeurs le soupçonnent très fortement d'avoir actionné pour faire attaquer des institutions guadeloupéennes de l'État. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a parlé vendredi dernier de trahison à l'égard de ce brigadier chef. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme est connu pour ses idées indépendantistes. Il serait donc allé très loin en profitant des manifestations anti-pass sanitaire pour créer le chaos. Après des semaines de surveillance, d'écoute téléphonique, l'inspection générale de la police nationale le soupçonne d'être en lien avec les deux chefs de gang arrêtés en même temps lors du coup de filet la semaine dernière. On sait que les enquêteurs et le procureur le soupçonnent même d'être le donneur d'ordre pour l'attaque du service pénitentiaire d'insertion et de probation fin novembre, où il y avait eu des tirs contre les forces de l'ordre. Il aurait planifié aussi un assaut contre la préfecture à Basse-Terre. Le brigadier-chef a été placé en détention provisoire. Il conteste toutes ces accusations. Il a fait appel de sources proches du dossier. On estime que les affrontements très violents de fin de semaine dernière en Guadeloupe seraient en lien justement avec l'arrestation de ce policier et des deux chefs de gang.
Information signée Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter. C'est une photo polémique qui avait été signalée par le ministre de l'Intérieur en personne après des manifestations anti-vax il y a 10 jours à Paris, une photo qui laissait supposer qu'un groupe de militants d'extrême droite avait fait le salut nazi, les bras tendus en avant. Pas d'infraction, a finalement jugé le parquet de Paris qui a classé l'affaire, estimant qu'il s'agissait juste d'un clapping, un rituel de supporters pour applaudir une équipe. C'est l'ultime survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Robert Ebra, l'un des 6 habitants de ce village de la Haute-Vienne, à avoir échappé à la division d'Asreich, c'était le 10 juin 1944. Il a été décoré aujourd'hui de l'Ordre National du Mérite par Emmanuel Macron, le chef de l'État en visite dans la Haute-Vienne. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un déplacement à haute teneur historique du chef de l'État, haute teneur politique également, où les allusions à l'extrême droite contemporaine n'ont pas manqué.
Allons enfants de la patrie.
Il flanche, mais se tient debout, soutenu par sa petite fille devant le tombeau des martyrs. Robert Ebra a 96 ans. Il en avait 19 ce 10 juin 44.
En quelques heures seulement, tout le village fut détruit et tant de vies fauchées.
643 morts. Le jeune garagiste est avec ceux qui sont enfermés dans la grange.
Alors que vous êtes tous entassés les uns sur les autres, les SS déchargent leurs fusils, tirant dans le tas à l'aveugle. Et il vous monte alors au nez une odeur de sang et de suie, de poussière et de poudre.
Caché sous les corps, il s'en sort, rejoint la résistance et toute sa vie se bat pour que l'on n'oublie pas. Emmanuel Macron s'engage à poursuivre le combat.
Car vous le savez, ceux qui ne peuvent se rappeler, ceux qui nous font courir le risque de l'oubli, nous engagent sur un seul chemin, celui qui nous ferait prendre le risque de répéter cette histoire.
Le retour du tragique, plusieurs fois évoqué par le président ces dernières semaines.
Notre mémoire nationale ne s'éteindra pas, car sans cesse nous ravivrons la flamme.
Un clin d'œil à De Gaulle, un salut à l'idéal de paix européen et en filigrane, l'image savamment entretenue du rempart contre les nationalismes. C'est la troisième visite d'Emmanuel Macron à Oradour. La première, c'était en 2017, juste avant le second tour face à Marine Le Pen.
Simon Le Baron dans la Haute-Vienne à Oradour-sur-Glane. Jean Castex, lui, sera demain à Auschwitz avec plusieurs autres ministres pour le 77e anniversaire de la libération du camp d'extermination.
C'est un feuilleton qui ne cesse de rebondir en Grande-Bretagne, les fêtes pirates de Downing Street.
La police de Londres annonce en effet aujourd'hui qu'elle diligente une enquête à son tour. Après les investigations administratives dont on ne connaît pas encore les conclusions, les policiers s'emparent donc maintenant de ce dossier qui empoisonne la vie de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique, dans la tempête, a pris la parole cet après-midi au Parlement. À Londres, Richard Place.
Il est venu à la Chambre des communes pour parler de l'Ukraine. Mais hier soir, on apprenait un nouveau rassemblement interdit en juin 2020 à Downing Street pour son anniversaire. Et aujourd'hui, la police entre dans le jeu, étrillée par l'opposition qui réclame sa démission immédiate. Boris Johnson répond.
Il y a quelques semaines, j'ai ordonné une enquête indépendante sur une série d'événements à Downing Street, au sein de mon cabinet et dans certains ministères qui constituaient de potentielles infractions aux règles anti-Covid. Ce processus inclut le partage constant des informations recueillies avec la police de Londres. Alors je salue la décision de la police de conduire sa propre enquête parce que je crois que cela permettra au public d'avoir la transparence puis de tirer un trait sur cette affaire.
L'enquête indépendante dont il parle, c'est celle menée par une haute fonctionnaire dont on attendait les conclusions cette semaine. Mais la police change la donne, il n'y a plus de calendrier, même flou. Voilà qui modifie aussi les plans des conservateurs anti-Bojo. Certains attendaient plus d'informations avant de peut-être lancer l'offensive et déclencher un vote de défiance au Parlement. Le chaos au sein de la majorité et Johnson qui en profite pour rappeler qu'il ne pense pas avoir enfreint la loi. Londres, Richard Place, France Inter.
Une condamnation inacceptable pour Paris. Le Français Benjamin Brière a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime de Téhéran. Benjamin Brière, qui s'est toujours présenté comme un touriste, il a été arrêté en Iran il y a un an et demi pour avoir pris des photographies de zones interdites avec un drone de loisir dans un parc naturel iranien.
Et puis on termine, Sébastien, avec les mots d'un beau et bon perdant.
Ouais, le tennisman Gaël Monfils qui échoue une fois de plus alors qu'il était à deux doigts d'une demi-finale à l'Open d'Australie, battu en quart de finale au terme d'un match en 5-7 contre l'Italien Berrettini, 7e mondial. Gaël Monfils, dépité, mais pas abattu.
À l'arrivée, encore une fois, je suis moins fort, tu vois. Tennistiquement, physiquement, mentalement, j'ai été moins fort encore une fois et je le suis depuis 18 ans que je suis là, je suis moins fort. Je dirais même pas que j'apprends, tu vois, c'est j'encaisse. Mais je sens qu'une fois, je vais y arriver, j'espère, quoi. Enfin, du moins, c'est ma volonté, peut-être que j'y arriverai jamais. On parle d'un truc, c'est gagner un quart de finale, quoi. Donc après, il faut gagner une demi. Demi, j'en ai joué deux dans ma vie. Après, il faut jouer une finale, j'en ai jamais joué. Donc t'imagines, tu commences à monter la montagne, mais tu vois, c'est mon challenge personnel. J'espère y arriver. Et c'est tout, donc... je tombe, et à moi d'essayer de me relever.
Voilà, déçu, mais encore vivant, Gaël Monfils avec Fabrice Abgral. Dernier espoir français, Alizé Cornet, chez les femmes, demain en quart de finale contre l'américaine Danielle Collins, tête de série numéro 27.
Merci beaucoup Sébastien Eugénie, à tout de suite pour votre vrai travail sous les radars. Dans Un jour dans le monde, on parlera notamment du Bitcoin qui éteint les lumières au Kazakhstan. Ce soir, nous allons en Ukraine avec notre invité, ancien ambassadeur en Russie, tenter de comprendre si on fonce dans une guerre ou si la diplomatie a encore de la place entre la Russie et les États-Unis. Et puis cette question au téléphone sonne et si on était en phase 2 de l'épidémie, c'est-à-dire le virus encore là bien sûr, mais Omicron, tout le monde le reconnaît, est un tournant. Est-il temps alors de changer le logiciel de notre gestion de l'épidémie? On compte sur les vaccins, on compte sur le traitement pour un vrai vivre avec. Est-ce qu'on s'approche de ce moment-là? 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant cela.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir, une journée hivernale pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Encore des gelées quasiment partout hein, demain matin. En montagne et sur le quart sud-est, le soleil sera au rendez-vous, avec un petit bémol quand même autour de la Méditerranée. Il faudra attendre que nuages bas et brouillards se dissipent pour retrouver le soleil. Sur les plaines du sud-ouest, beaucoup de grisailles. Les éclaircies se développeront l'après-midi, mais ça restera quand même difficile le long de la Garonne. Et puis plus au nord, les nuages bas seront très nombreux. Attention aux brouillards parfois givrants. L'après-midi, le ciel restera très encombré de la Normandie vers la région parisienne et les frontières du Nord, mais ça s'éclaircira davantage en allant vers le Sud.
Et sinon, température encore contrastée, en tout cas l'après-midi.
Oui, sous les nuages bas, 1 à 7 degrés sur la moitié Nord, le long de la Garonne, sur le Lyonnais. Ailleurs, on ira jusqu'à 8 à 11 degrés et 12 à 16 autour de la Méditerranée, les 16 degrés pour Perpignan, Fabienne.
Et Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup Élodie, à tout à l'heure, après 19h.